France Inter, le rendez-vous de la médiatrice Emmanuelle Davier.
Quels reproches les auditeurs peuvent-ils adresser à la radio qui enregistre des records absolus d'audience? Près de 6,5 millions d'auditeurs quotidiens, le 7-9 de Nicolas Demorand et Léa Salamé, première matinale de France. Toutes les tranches d'information sont en tête, le matin, le midi et le soir. Carton plein donc pour France Inter, mais cela n'empêche pas les critiques. 75% des messages que je reçois chaque jour, environ un millier, concernent France Inter, qui aime bien, châtie bien, et les auditeurs de cette station ne se prive pas de le faire, ce qui peut de prime abord susciter parfois des crispations, des agacements lorsque je relève aux remarques auprès des personnes concernées. Et c'est bien normal parce que les critiques ne sont jamais agréables, mais au fil de l'échange, on s'accorde à dire qu'elles sont précieuses et qu'elles permettent aussi de réfléchir et d'avancer. Alors aujourd'hui, avec moi dans ce studio pour répondre à vos remarques, Catherine Nel, la directrice de l'information de France Inter, et Fabienne Sintès, présentatrice du 18-20, Un jour dans le monde, et l'emblématique Téléphone sonne. Avec elle, nous allons notamment revenir sur le traitement journalistique des Gilets jaunes.
Donc ce soir, c'est un téléphone sonne géant à partir de 18h15 avec vos questions. Vous qui, comme nous, avez traversé, vécu ce week-end inédit, mélange de revendications et d'extrême violence. Vous êtes sur les barrages en gilet jaune, vous êtes commerçant, vous êtes élu local, vous voulez témoigner, échanger avec nos invités. Vous êtes les bienvenus au 01 45 24 7000.
7h49, Léa Salamé, votre invité ce matin est Gilet jaune de l'Indre.
Bonjour à vous Jean-François Barnaba, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On vous présente comme Gilet jaune de l'Indre, mais pouvez-vous nous dire en quelques mots, qui êtes-vous au-delà de cette appellation désormais contrôlée, d'où vous venez et à quel moment vous avez décidé de vous mobiliser?
Je suis dans le mouvement depuis le premier jour, j'ai participé au premier blocage naturellement le 17.
Démission ! Macron ! Démission !
Nous sommes à présent avec un représentant des Gilets jaunes. Bonjour David Tan.
Oui, bonjour.
Chauffeur de taxi à Nantes, 42 ans, vous êtes Gilet jaune depuis le début, vous vous présentez comme un modéré, vous faites partie des signataires de cette tribune qui appelle à aller à Matignon demain, vous irez vous ou pas?
Alors, oui, moi j'ai le courage d'y aller parce qu'on a été informé de pas y aller puisque c'est dangereux pour notre personne et notre intégrité physique. On a reçu plein de menaces.
Depuis le 17 novembre, les auditeurs critiquent la couverture du mouvement des Gilets jaunes sur l'antenne. Chaque semaine, des messages de reproche nous parviennent et la plupart dénoncent la surmédiatisation du mouvement. Je vous lis l'un des derniers messages reçus. Ras-le-bol des Gilets jaunes, des informations, des interviews, des reportages, des zooms, des mises au point, des recentrages. Bref, nous sommes en overdose, écrit Evelyne. Ces 80 000 personnes qui monopolisent le débat depuis 10 samedis sont insupportables. Catherine Nel, comprenez vous le ras-le-bol de cette auditrice qui résume efficacement la teneur des messages que je reçois depuis 2 mois?
En tout cas, comme vous le disiez, Emmanuel, c'est plutôt sain, je trouve, que nos auditeurs nous écoutent et qu'ils nous fassent des griefs. Après, il faut effectivement les entendre. Néanmoins, c'est un mouvement qui, effectivement, depuis presque 3 mois, a submergé le reste de l'actualité, mais a submergé aussi tous les codes que nous connaissions dans notre pays. Et je pense qu'il est très difficile, même si chaque jour, vraiment chaque jour, à chaque conférence, nous essayons d'équilibrer le traitement de notre actualité, de nos actualités, c'est-à-dire ne pas parler que de ça. Mais ce serait aussi contraire au métier que nous faisons que de ne pas essayer d'analyser tout ce qui se passe depuis 3 mois dans notre pays. Pas simplement avec les gilets jaunes, avec des intellectuels, avec des politiques, certes avec des gilets jaunes, pas tellement d'ailleurs, comment dire, pas surreprésentés à l'antenne. Il y en a beaucoup dans nos reportages, on leur a donné la parole, mais il n'y a pas de surreprésentation à notre antenne. Mais oui, évidemment, c'est quelque chose que l'on doit traiter, et sans doute beaucoup traité.
Et alors, ces dernières semaines, où a résidé la difficulté pour traiter de ce mouvement?
C'est très difficile parce que ça a pris de court, je pense, les journalistes que nous sommes, les politiques, ça on l'a vu aussi, mais les journalistes que nous sommes, justement parce que c'est un mouvement très hétérogène, sans leader. Nous avons l'habitude, peut-être de manière très codifiée, nous journalistes, d'avoir à chaque fois un leader syndicaliste, un leader d'un mouvement politique, un représentant d'une association. Rien de tel dans ce mouvement. Il y avait autant finalement de leaders que de gilets jaunes sur les ronds-points. Donc il a fallu s'adapter au traitement médiatique, au traitement de ce mouvement qui n'est pas que l'émergence d'une parole de certains gilets jaunes, qui est quand même un ressenti très profond dans la population française. Donc là aussi, il a fallu s'adapter, chercher, avoir des doutes et trouver un mode de représentation de l'ensemble de ce mouvement.
Et cette adaptation permanente, quotidienne, est-ce que cela a suscité des débats au sein de la rédaction ?
Je dirais qu'on en parle et que moi-même, je suscite le débat et les questions. Parce qu'il est, comme je le disais tout à l'heure, plutôt sain de douter et de ne pas croire qu'on a la solution. Nous n'avions pas la solution, ni dans l'approche de ce mouvement qui nous a un peu désarçonnés, ni ensuite par les violences qui ont succédé, y compris les violences d'ailleurs, à l'encontre des journalistes. Donc oui, nous en parlons à chaque conférence avec les journalistes et les chefs de service, bien sûr.
Et les auditeurs perçoivent le traitement médiatique des Gilets jaunes comme une course à l'audience pour l'antenne. Est-ce que vous pensez que ce mouvement a dopé les audiences de France Inter ?
Quand il y a une forte actualité, quelle qu'elle soit, évidemment, tous les médias, et nous l'avons vu dans la dernière vague de sondages, d'audience, profitent entre guillemets de cette audience. Mais France Inter est un média qui, au niveau de l'information, vague après vague d'audience, rencontre là la confiance de ses auditeurs, puisque ils sont de plus en plus nombreux, et pas simplement depuis le mouvement des Gilets jaunes. Donc oui, une partie sans doute des auditeurs ont voulu encore plus. En tout cas, peut-être certains nous ont rejoints pour avoir des informations peut-être traitées d'une manière différente. Mais je pense que cette demande d'information et cette crédibilité de l'information d'Inter, elle existe depuis fort longtemps.
Message de Michel. Vous continuez, au-delà de toute logique, à accorder dans l'information une place démesurée aux Gilets jaunes. Quid des autres Français qui en ont plus qu'assez de ces mouvements disparates? Pourquoi vous ne leur donnez pas la parole? Alors cette question rejoint celle de Daniel. Pourquoi ne pas inviter des citoyens qui veulent que la France réussisse, qui ont le sens de l'intérêt général et qui eux aussi ont des choses à dire et qui feront passer un autre message que de nombreux auditeurs sont prêts à écouter. Donner la parole à d'autres citoyens non gilets jaunes est une demande très fréquente des auditeurs. Est-ce que la parole de ceux qui sont opposés à ce mouvement, qui en ont assez, on l'a entendu dans le téléphone sonne, Fabienne Sintès?
On l'a entendu parfois, oui, on a entendu certains messages d'auditeurs qui allaient dans cette direction-là, mais vous savez, le téléphone sonne, c'est une émission qui repose sur les auditeurs et qui repose uniquement sur ceux qui appellent. Donc si on n'appelle pas, et s'il y a une écrasante majorité de gens qui disent autre chose, ou ceux qui ont plus l'envie de passer à l'antenne disent autre chose, c'est dans cette direction qu'on va. Mais bien sûr qu'il y en a eu, oui. Moi je trouve que le téléphone sonne pour ça. D'abord on arrive en fin de journée, c'est toujours important. On a une espèce de sentiment d'essayer d'un peu ramasser les choses, en fait, nous. Et on a eu dans les appels quelque chose qui ressemble vraiment à ce qu'on entend et ce qu'on lit dans les sondages, finalement. Les premiers téléphones sonnent, il y avait beaucoup de sympathisants gilets jaunes qui étaient là, pas beaucoup de gilets jaunes en soi qui disaient bonjour, je suis gilet jaune, je voudrais dire ça. Il y en a eu un peu plus quand les événements ont commencé à s'accélérer et surtout à s'additionner. Et puis derrière, on est arrivé aussi effectivement à beaucoup d'appels qui disaient oui, enfin peut-être qu'on en fait trop, voilà ce que moi j'ai à dire, etc. Donc moi j'ai l'impression qu'on a entendu tout ça. On a surtout entendu dans les téléphones sonnes qu'on a mis en place. À chaque fois, ça s'appelle pas les gilets jaunes, ça s'appelle le référendum, est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre, ça s'appelle le grand débat, est-ce qu'on est pour ou est-ce qu'on est contre, enfin des choses comme ça. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur de ces émissions-là, c'est pas seulement une espèce de réceptacle où tous les gilets jaunes sont invités à venir et à parler, tout le monde est invité à le faire. Et moi j'ai l'impression que tout le monde a pu le faire et avoir justement une opinion sur les thèmes qui ont été balayés quand même dans cette période-là.
Alors vous parlez de réceptacle, c'est vrai que beaucoup de propos conspirationnistes circulent depuis le début du mouvement, y avez-vous échappé ?
Eh ben oui, en fait. Alors pas tellement sur... On a reçu quelques mails un peu bizarres toujours dans ces cas-là, mais à l'antenne, pas du tout. Moi j'ai au contraire l'impression que dans cette période-là, on a eu des choses intéressantes, on a eu des choses sérieuses, en fait. Il y a vraiment eu des discussions sur voilà ce que j'ai envie de dire moi dans un grand débat, voilà ce que j'ai envie d'entendre, voilà ce que je dirais si on me posait la question, etc. Donc non, pas tellement, en fait. On n'a pas été submergé par ces choses-là.
Et dans le...
Par ailleurs, pardon Emmanuel, oui, on ne le passerait pas de vous à moi si on avait, alors si on se faisait piéger par un auditeur.
Oui, mais une prise d'antenne, ça existe.
Voilà, subitement nous
mais
disant...
Mais il y a quelqu'un pour mener les débats,
voilà,
aussi.
Mais dans ces cas-là, on coupe court, évidemment. Enfin, on ne va pas se mettre à avoir un dialogue sur... Je ne sais quoi.
Et non, je absolument. Pas, voilà. Et dans le contexte de cette actualité intense, est-ce que le téléphone sonne a, à votre avis, une fonction sociétale ?
Bah sûrement. Si on n'est pas en prise avec avec l'air du temps au téléphone sonne, si on n'est pas en prise avec ce que le ressenti des gens, avec ce qui se dit à la machine à café, alors on a raté cette émission. Donc oui, on a cette valeur-là. Quand je disais qu'on était en fin de journée, on est aussi ce réceptacle-là en fin de journée. En fait, les gens ont eu leur trop plein ou leur pas assez, j'en sais rien, et viennent le raconter au téléphone sonne. Donc oui, on sert aussi à ça. Et c'est pour ça qu'on a eu vraiment des choses formidables pendant ces trois derniers mois. Vraiment, avec des vraies idées, avec des vraies propositions de la part des gens.
Catherine Nail.
Oui, ce que je voulais ajouter, et Fabienne vient de le dire, c'est que on a parlé du fond. On a le sentiment que qu'on parle des Gilets jaunes à travers la parole uniquement des Gilets jaunes. Depuis trois mois, on parle beaucoup du fond, la fracture numérique, les services publics qui existent ou qui n'existent pas, la représentativité, la fiscalité. On parle énormément de fond, on parle toujours de fond. Mais je dirais que les gens se sont, nos auditeurs se sont appropriés aussi ce fond. Là, et c'est très important.
Et alors, quand même, ce que l'on peut noter aussi, c'est le succès éclatant des éditions spéciales. Parce que habituellement, si on donne quelques chiffres, le téléphone sonne recueille entre 200 et 500 appels. Et il y en a eu plus de 2000 lors des éditions spéciales.
Ouais. On a crevé tous les plafonds, c'est dire le besoin que les gens avaient de parler, c'est dire qu'ils ont des idées et qu'ils ont envie de les exprimer. Je sais pas si vous avez noté que en général, c'est pas des questions qui font 20 secondes. C'est rarement des questions d'ailleurs, c'est plutôt des gens qui ont une idée à exprimer, à exposer, ils le font. S'il y a un endroit pour le faire sur l'antenne d'Inter, c'est vraiment au téléphone sonne, parce qu'en plus quand on a ouvert et qu'on avait deux heures, on a le temps de le faire. Donc c'est vraiment très impressionnant. Ce qui était très impressionnant, c'est de regarder ce qui arrive au standard d'abord, c'est-à-dire j'allais dire un fourre-tout en fait, beaucoup d'idées dans tous les sens, et puis plus l'émission avance, plus les questions se resserrent en fonction des invités, en fonction des réponses, en fonction des questions qu'il y a déjà eues. Ça veut dire que les gens s'écoutent et se parlent. Moi, j'ai l'impression qu'il s'est passé des choses au téléphone sonne pendant cette période. C'est plutôt une très bonne nouvelle pour cette émission.
Et alors, dans ces choses qui se sont passées, est-ce que vous pensez que cela peut favoriser le fait de retisser de la confiance avec les auditeurs et les médias ? Est-ce alors, que c'est une petite pierre à cet édifice qui est devenu de plus en plus fragile et qui va devoir reconsolider activement ces prochains mois.
J'espère. Moi, j'ai l'impression qu'on a une relation à l'antenne très bienveillante, les auditeurs et nous, en fait. Et que les messages, parce que moi aussi, je reçois ces messages-là, évidemment, et j'entends cette défiance-là. Je la vois arriver par mail parfois, je la vois terriblement sur Twitter, par exemple. Donc, ce qui est toujours très frappant, c'est que la conversation sur la défiance ne se passe pas au même endroit que ne se passe rarement à l'antenne en fait.
Elle se situe sur les réseaux sociaux.
Elle est sur les réseaux sociaux et pardon de le dire parce que des fois on a eu une discussion un peu serrée avec un auditeur hier là-dessus sur Twitter justement. Très souvent, les gens qui, en tout cas pour ce qui m'arrive à moi, les gens qui me critiquent moi le plus souvent ne sont pas ceux qui m'écoutent. Et des fois, on a un peu envie de leur dire venez écouter pour voir ce que ça veut dire et ce que ça donne dans une émission interactive et puis reparlons-en après.
Dans le baromètre publié par l'Institut Kantar-Soufresse pour La Croix sur la confiance des Français dans les médias, seulement 32% des personnes interrogées se disent satisfaites du traitement médiatique des Gilets jaunes. Donc, depuis le début de cette crise, la défiance à l'égard de la presse, si elle avait été déjà constatée par certains, est apparue pour tous au grand jour. Est-ce que Catherine Nail, cela incite à une remise en question, à une autocritique, et quel travail sur soi cela peut entraîner pour les journalistes?
C'est très... Comment dire, l'autocritique est salutaire. Ensuite, je pense que cette crise de société, au-delà des Gilets jaunes, doit nous faire réfléchir aussi sur les valeurs journalistiques pures que nous défendons. Être journaliste, c'est répondre aussi à un code de déontologie. C'est un métier, on apprend à être journaliste. Et c'est pas juste tenir un micro devant quelqu'un sans filtre. C'est choisir, c'est éditer, c'est faire des choix de hiérarchie. C'est ça notre métier. Parallèlement qu'il y ait des réseaux sociaux, que des gens fassent du Facebook Live, c'est autre chose. Tout citoyen peut le faire. Ça n'est pas être journaliste. Je pense que ça doit aussi faire partie, je dirais, de ce qu'on doit absolument revendiquer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas douter. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire son autocritique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter ce que les gens ont à nous dire. Mais néanmoins, il faut être fort aussi sur ses valeurs.
Certes, mais
spécifiquement,
comment on agit concrètement? C'est pas toujours facile pour les journalistes d'accepter les critiques, et cela vaut probablement
pour
tous les professionnels, quel que soit leur secteur, qui considèrent qu'ils ont une expertise et qu'elle ne peut pas être remise en cause par des néophytes. Donc, très concrètement, comment on fait?
En en parlant entre nous. En regardant attentivement ce que les auditeurs nous disent. Alors parfois, vous l'avez dit, Emmanuel, c'est vrai que ça peut être un peu, il y a un premier aspect comme ça crispant, parce qu'on a l'impression de bien faire son métier et que être attaqué est toujours un peu gênant. Mais néanmoins, il nous est arrivé souvent de prendre des mails d'auditeurs et d'en faire des reportages avec eux pour voir aussi ce qu'ils avaient à dire et pour voir à l'antenne si c'était intéressant de traiter le sujet. Voilà. Après, c'est un débat qui dépasse le cadre de la fabrication de l'info au quotidien, de la production de l'info au quotidien. C'est un débat citoyen aussi autour de l'information. Mais il y a des moyens très pratiques, très concrets qu'on essaye de faire chaque jour.
Je voudrais qu'on écoute Monique. Bonsoir Monique.
Oui, bonsoir.
Soyez la bienvenue, on vous écoute.
Oui.
Allez, on file au standard de France Inter. On nous attend. Cécile, soyez la bienvenue. Bonjour.
Bonjour à toute l'équipe.
Alors, on va partir cette fois-ci en Bretagne, à Auray. Georges est en ligne. Bonsoir, Georges.
Bonsoir.
On a entendu...
Mais ce mépris que l'on a quand on a les gardes de la jeunesse et tout, non, ça ne peut plus durer.
On a entendu,
alors,
Gérard, pardon
si
de vous interrompre.
Si vous pensiez que c'était de la grogne, ça n'est pas de la grogne.
On a entendu...
Je suis désolé d'avoir été un peu long
oui.
pour les autres auditeurs, mais gardez un peu
Stop,
le temps d'antenne
Gérard,
un peu plus
merci
longtemps.
Beaucoup.
Merci beaucoup, Gérard.
Allez, on file au standard. Bonjour Benjamin et bienvenue à l'antenne d'Inter.
Quand vous voyez ce qui se passe dans la rue, quand vous voyez la misère qui monte...
Est-ce que vous avez une question, Philippe?
Des aménagements.
Philippe, est-ce que vous avez une question? Dites-nous.
Est-ce que le grand débat, c'est pas de l'enfumage, du gain de temps, et véritablement du foutage de gueule?
Merci pour cette question que vous avez fini par formuler.
De nombreux auditeurs regrettent de ne pas pouvoir s'exprimer davantage, notamment dans la matinale.
Mais ceux qui le font.
Absolument. Voici la remarque de Bernard. Les auditeurs se limitent à deux dans la matinale de Nicolas Demorand. Par ailleurs, les auditeurs remercient d'avoir été retenus pour intervenir. Mais quels sont les critères de cette censure qui écarte ou diffuse les questions? Il serait bon d'éclaircir la situation. Alors, Catherine Neil, reprenons dans l'ordre. Pourquoi n'y a-t-il que deux auditeurs qui peuvent s'exprimer dans la matinale?
Alors, ce qu'il faut savoir d'abord, Emmanuel, vous donniez des chiffres tout à l'heure sur le téléphone sonne. Sur la matinale, le nombre d'auditeurs qui nous font signe au téléphone, par téléphone, hein, je ne parle pas des réseaux sociaux, par téléphone, sont beaucoup, beaucoup moins nombreux. Ça dépend des thèmes, ça dépend des invités. Mais on est plutôt entre 20, 50, alors qu'au téléphone sonne, on est plutôt entre 200, 500 et plus. Ensuite, il y a en régie deux personnes qui sont des chargés de production, qui ont l'habitude tous les jours de effectivement sélectionner. Il n'y a pas de censure, on sélectionne. On sélectionne tout simplement parce que pendant 18 minutes, l'invité est interrogé par Léa Salamé et Nicolas Demorand, et qu'ensuite nous essayons d'avoir des questions complémentaires avec nos auditeurs pour faire avancer le débat pour tous les auditeurs. Donc on sélectionne sur ces critères-là, des critères de représentativité, des critères de questions complémentaires, des gens qui ont des choses à dire hein, aussi tout simplement, des gens qui ont de vraies questions à poser. Alors il y en a peu, mais ces questions-là, elles me semblent assez importantes en termes d'interaction avec l'antenne le matin.
Fabienne Synthèse, rapidement, dans votre émission, comment sont sélectionnés les
Pareil,
auditeurs?
Exactement de la même manière. Alors nous, il n'y en a pas deux, il y en a une personne qui est derrière, qui rappelle les gens qui ont déjà appelé au standard pour voir effectivement ce qu'ils ont à dire, pour voir comment ils le formulent aussi, pardon, mais c'est important parce qu'il faut que l'émission avance, il faut que les gens aient le temps. Et qui sélectionne, parce que le mot de censure, moi, m'a forcément heurté aussi. Il n'y a pas de censure. Vous savez, 500 appels, si on considère qu'un auditeur, c'est 2 minutes, si on passait tout le monde, il y en aurait pour 16 heures. Donc, ce serait un peu plus compliqué. Et surtout, qui fait avancer l'émission, en fait, une question après l'autre? Si tout le monde pose la même question, on sait qu'il y a du monde autour de ce thème particulier, donc je peux le dire, mais c'est bien qu'on entende un auditeur qui dit autre chose, donc c'est comme ça que ça avance, en fait.
Il faut faire avancer le débat, voilà. Et ce qui avance aussi, c'est la pendule. Catherine Neil, Fabienne Synthèse, merci. C'est la fin du rendez-vous de la médiatrice, une émission préparée par Catherine Cadic et Juliette Fayollet. Le thème du téléphone sonne ce soir avec Claire Servageant, pourquoi une telle défiance à l'égard des journalistes? À la réalisation réalisation de cette émission François Audouin et à la technique Charles Pélabon. Et pour nous écrire, une seule adresse, mediatrice.radiofrance.fr. Après le flash de 10h, vous retrouvez Ali Rebéi et ses invités.